Europe 1.
Bonjour Sonia Fibleuil.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la porte-parole de la police nationale. Actualité chargée pour les forces de l'ordre en ce moment. C'est votre première prise de parole depuis l'affaire du refus d'obtempérer samedi dernier dans le 18e arrondissement. Je rappelle très brièvement les faits. Lors d'un contrôle, trois policiers ouvrent le feu sur un véhicule qui tente de prendre la fuite. Une des passagères est tuée. Le conducteur est blessé. Il a été déféré hier devant un magistrat en vue de sa mise en examen. Mais les policiers sont également mis en cause dans cette affaire. Le sujet justement de ce dossier, Sonia Fibleuil, c'est le refus d'obtempérer ou bien les tirs de policiers.
Alors, je précise au préalable que je ne peux pas m'exprimer sur le fond du dossier, sur le fond de l'affaire qui est en cours d'instruction actuellement. Et je le sais, tout comme vous, il y a eu une mise en examen hier du conducteur pour homicide volontaire. Donc l'affaire se poursuivra et je ne suis pas ici évidemment pour parler de ces circonstances précises.
Mais on a l'impression les prises de parole des avocats, de la passagère arrière du véhicule, du conducteur blessé, que dans cette affaire c'est un peu parole contre parole et que celle des agents de police qui sont pourtant assermentés, ce serait comme démonétiser Sonia Fibleuil.
Effectivement, nous ne pouvons pas ignorer que ce type d'affaires entraîne des débats importants, intenses au sein la population. Et donc je suis ici pour expliquer et vous expliquer quel est le cadre juridique dans lequel nous intervenons et à quel point les policiers agissent en tant que professionnels et ne font pas n'importe quoi et agissent dans des circonstances véritablement précises et légales.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui le refus d'obtempérer, quelle est l'ampleur du phénomène et puis quelles sont les circonstances qui font que les policiers peuvent avoir le droit d'engager des tirs d'armes à feu très concrètement, Sonia Fibleuil?
Alors, le refus d'obtempérer, il faut savoir que sur plus de 4 millions d'infractions, de crimes et délits qui sont traités par la police nationale tous les ans, représentent environ, pour la police nationale, hein, j'entends bien, environ 14 250 l'année dernière faits de refus d'obtempérer qui ont été comptabilisés pour la police nationale. Il y en a évidemment plus si on compte l'intégralité des forces de sécurité intérieure. Ces refus d'obtempérer, il y a des usages d'armes à feu sur des véhicules en mouvement qui sont comptabilisés par un traitement spécifique auprès de l'inspection générale de la police nationale. Et nous avons 157 usages d'armes à feu en 2021 sur des véhicules en mouvement.
Donc sur 14 000 refus d'obtempérer, 140-150 donnent lieu à des tirs d'armes à feu. Et à chaque fois, systématiquement, l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, est saisie
Systématiquement saisie, elle est systématiquement informée par un traitement relatif à l'usage des armes qu'on appelle dans notre jargon TSUA pour comptabiliser et comprendre les circonstances d'usage des armes à feu sur les véhicules en mouvement et du maire général les usages des armes à feu. Donc nous avons, nous parlons actuellement d'une portion de notre activité importante et visible certes, mais parmi les 4,1 millions d'infractions qui sont traitées par la police nationale. Alors, ceci étant dit et recontextualisé, le refus d'obtempérer, c'est évidemment un délit, et il faut le rappeler, c'est un délit qui est puni par le Code de la route, et qui consiste à, lorsqu'un conducteur commet un refus d'obtempérer, c'est parce qu'il refuse consciemment de s'arrêter après l'ordre d'un agent qui est clairement identifié comme tel, évidemment, nous avons des uniformes, des insignes visibles de policiers, et qui sont chargés de constater les infractions, et ce refus d'obtempérer est puni d'un emprisonnement maximum d'un an, évidemment porté à 5 ans est beaucoup plus important lorsqu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui le conducteur à ce moment-là s'expose à une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Donc on est quand même dans une infraction qui est grave.
Alors la loi de 2017 dit qu'en cas de refus d'obtempérer, si le policier ressent que dans sa fuite le conducteur met en danger les forces de l'ordre ou autrui, alors il a le droit de dégainer son arme et de tirer. Mais alors, on voit qu'en réalité, cette prise de décision, elle est fondée sur une question de ressenti. Est-ce que la loi est suffisamment précise? Et c'est déterminant pour les policiers, pour leur protection juridique.
La loi est extrêmement précise. Et vous l'avez rappelé, nous avons un texte spécifique. Je voudrais juste vous rappeler que nous avons un texte d'abord généraliste, qui est celui de la légitime défense, qui est dans le code pénal, qui s'applique à tous, à la population, aux citoyens, tout comme aux policiers.
Qui est extrêmement complexe, cette question de la situation de légitime défense est quand même compliquée. Il y a une question de proportionnalité, il faut que la personne menaçante soit tournée vers vous, etc. etc.
Exactement, une riposte simultanée et proportionnée, qui est légitimée par une agression qui est injustifiée. Bon, c'est un texte juridique de droit commun. On y parle beaucoup d'agression, en fait de l'acte d'agression. Or, on s'est rendu compte en 2017 qu'on ne parlait pas de l'usage de l'arme. Et il y avait un vide juridique, qui plus est dans un contexte difficile, puisque, je vous rappelle, 2016, agression des policiers à Viry-Châtillon. 2017, Xavier Jugelé, qui est abattu sur la voie publique
sur les Champs-Élysées.
Et ce contexte a mis en exergue le fait qu'il fallait réglementer précisément l'usage des armes pour les forces de l'ordre. Police nationale, tout comme gendarmerie nationale. Et nous sommes arrivés à ce texte du Code de la sécurité intérieure qui encadre l'usage des armes.
Alors, vous nous avez donné tout à l'heure les proportions des situations de refus d'obtempérer, où vous dites en substance ça reste quand même extrêmement rare et marginal. Mais malgré tout, est-ce qu'il se dessine une tendance, Sonia Fibleuil? Qu'est-ce que ça dit selon vous de la société, du rapport à la police? Est-ce que vous constatez que ces situations de refus d'obtempérer sont de plus en plus fréquentes?
Il y a une relative stabilité du nombre de refus d'obtempérer depuis ces trois dernières années. Alors évidemment, il y a des petits pics, des petites descentes. Par exemple, je crois qu'en 2020, on était à un peu plus de 13 000, mais en 2019, on était à 14 000 également.
Donc, il n'y a pas d'épidémie du refus d'obtempérer.
Il n'y a pas d'épidémie, il y a une légère augmentation, bien sûr, qu'il faut prendre en compte. Ce que cela implique, c'est que, et vous l'avez dit tout à l'heure, les policiers doivent réagir avec leur perception sur des situations qui sont extrêmement dangereuses et doivent, en une fraction de seconde, réagir face à une agression, face à un danger qui est imminent. Et ils doivent réagir, et là on en revient également au Code de la sécurité intérieure, en cas d'absolue nécessité et de manière proportionnée.
Mais est-ce que la loi est suffisamment claire? Parce que si on prend une autre affaire, celle du Pont-Neuf, où là aussi des policiers ont été amenés à faire usage de leur arme à l'encontre d'un véhicule qui se dirigeait vers eux, on voit que dans le traitement judiciaire de cette affaire, on va déterminer quel a été l'angle du tir, est-ce que le véhicule était bien face aux policiers et que tout se joue autour de cela. Est-ce que les règles sont suffisamment claires du point de vue de la police nationale?
Les règles sont claires. Nous avons un quatrièmement dans l'article du Code de sécurité intérieure qui dit précisément que lorsqu'on ne peut immobiliser autrement que par l'usage des armes des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et quand il y a une possibilité de perpétrer dans la fuite des atteintes à la vie, les policiers peuvent riposter. La difficulté, ce n'est pas le texte, c'est évidemment la confrontation à la pratique, au fait de devoir intervenir dans un temps extrêmement court, sous stress, et réagir face à des situations qui sont extrêmement dangereuses, parce qu'on considère non seulement que notre vie, la vie du policier ou l'intégrité physique est atteinte de soi-même, de son collègue ou même d'autrui, de tout témoin qui concourt à la scène, et nous devons réagir en fonction de cela. Alors, qu'on ait un cadre juridique clair et que nous soyons professionnels pour pouvoir réagir face aux situations, c'est en fait, ça n'enlève rien du caractère tragique de ces situations, aussi bien pour les policiers d'ailleurs qui utilisent leurs armes, parce que tout policier qui fait l'usage de son arme est nécessairement choqué, voire meurtri, parce que ce sont des situations qui sont difficiles à gérer, et puis évidemment dramatiques pour les auteurs et pour les témoins de la scène.
Sonia Fibleuil, je rappelle, vous êtes porte-parole de la police nationale, alors évidemment je ne pense pas que vous soyez la bonne personne à qui demander ce matin si l'engagement des armes est excessif de la part de la police nationale, ou si au contraire il n'y a pas un risque que le traitement judiciaire et médiatique de ce genre d'affaires faire dissuade les policiers de faire usage de leurs armes. Question en revanche que je peux vous poser. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander aujourd'hui si les policiers sont suffisamment bien formés à l'usage de leurs armes, suffisamment bien accompagnés? On se souvient que par le passé, il y a eu des polémiques autour de l'entraînement des policiers au tir. Est-ce que cet entraînement était suffisant? Est-ce qu'il se faisait à fréquence suffisamment importante? Je crois que le minimum, c'est 60 cartouches tirées par an pour les forces de l'ordre dans le cadre d'un entraînement. Est-ce que c'est suffisant?
C'est cela, 3 tirs par an. Oui, nous devons nous entraîner, c'est extrêmement important et d'ailleurs ce type d'affaires le prouve. La formation continue et vraiment une attention très forte de la police nationale et du directeur général de la police nationale.
Chaque policier fait-il ses 60 cartouches par an aujourd'hui?
Chaque policier a l'obligation de faire ses 3 tirs par an qui représentent ses 60 cartouches. Donc oui, maintenant, il y a un suivi qui est très fort pour que les pousser à en faire plus, si c'est possible, et de pouvoir réagir véritablement en ayant connaissance de cette arme, c'est-à-dire en étant très familier de cette arme. Donc oui, la formation continue est extrêmement claire là-dessus, parce que, en fait, par exemple, pour les refus d'obtempérer et l'usage des armes, dans le cas, puisque c'est ce qui nous occupe ce matin, la formation continue ne cesse de mettre les policiers en situation stress pour les faire réfléchir, les amener à réfléchir à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. La situation idéale que nous avons en formation initiale à l'école de police, c'est un policier devant un pare-brise lors d'un contrôle pour surveiller l'avant, un policier à l'arrière pour surveiller les arrières et la voie publique, et un policier sur le côté pour surveiller pour discuter avec le conducteur et pouvoir prendre ses papiers. Ça, c'est la situation idéale. Et puis après, il y a la vraie vie, avec les trajectoires d'un véhicule qui peut leur foncer dessus. Donc on a des dispositifs d'intervention des véhicules, qu'on appelle dans notre jargon des stop-sticks, pour crever les pneus, quand c'est possible. Mais quand ce n'est pas possible, nous avons effectivement un cadre juridique. Donc alors, vous l'avez dit, c'est des affaires complexes, et j'en termine là, mais c'est des affaires complexes avec des expertises souvent qui sont nécessaires, parce que les choses ne sont pas si claires que ça en pratique.
Alors Sonia Fibleuil, il y a la technique policière et ensuite il y a la politisation des affaires. Comment réagit la police nationale quand elle entend Jean-Luc Mélenchon dire ou écrire que la police tue?
Moi, je ne me mêle pas de politique, je suis une experte, policière. Je laisse la polémique politique à d'autres et aux commentateurs, puisque ce n'est pas mon métier. Par contre, évidemment, tout ce qui touche à notre image, tout ce qui touche tout ce qui atteint notre probité, notre exemplarité et nos valeurs, nous touche de fait. Parce que nous avons à cœur, et je connais les policiers, ça fait 22 ans que je suis dans la police, je sais que les policiers ont véritablement leur mission chevillée au corps. Ils le font avec enthousiasme, au service de la population. Ils sont républicains, on a une police républicaine, et moi j'ai envie de dire, faisons confiance en la police nationale.
Il y a aussi cette affaire du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions. On apprend avec stupeur que les images de vidéosurveillance autour du stade ont été détruites au bout de 7 jours, faute d'avoir été réquisitionnées par la justice. Je vous pose la question très directement, c'est une erreur, c'est un oubli, ou il y a une volonté de dissimulation dans cette affaire?
Alors, je ne suis pas du tout la bonne personne pour répondre à cela, je ne suis pas en charge du dossier, en plus c'est la préfecture de police, moi je représente la direction générale de la police nationale, c'est-à-dire hors préfecture de police, donc c'est à eux que vous devez vous adresser. Ceci étant dit, les 7 jours de conservation, effectivement, c'est un délai légal.
Oui. Est-ce qu'il y a un sujet de doctrine du maintien de l'ordre? On a entendu le préfet allemand de la préfecture de police de Paris assumer la gestion policière du Stade de France et reconnaître un échec. Quel est cet échec, Sonia Fibleuil?
Alors, de la même manière, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le schéma national du maintien de l'ordre est en constante évolution, puisque d'ailleurs il a été réécrit récemment, de manière à pouvoir répondre aux besoins sociétaux qui nous sont portés à notre connaissance sur les manifestations de grande ampleur, qui sont des manifestations risquées, sur les attroupements sur la voie publique et sur la gestion du maintien de l'ordre, c'est-à-dire lorsque les manifestations dégénèrent. Je rappelle quand même que la police nationale est là pour protéger la liberté de manifester.
Est-ce que la police nationale sera prête dans 2 ans à l'occasion des Jeux Olympiques, puisque c'est la question qui a été soulevée après cette affaire du Stade de France, Sonia Fibloy?
Mais oui, ayez confiance, puisque la police nationale fait tout pour justement assurer la sécurité de tous, que ce soit dans 2 ans ou maintenant.
Merci d'être venu vous nous voir ce matin sur Europe 1. Ce petit rappel sur ce qu'est un refus d'obtempérer, sur les questions d'engagement des armes à feu par les forces de l'ordre. Merci d'être venu nous voir, Sonia Fibloy.
Merci à vous.
Porte-parole de la police nationale. Excellente journée à vous. Dans un